Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Juste à Kinshasa, bienvenue à cette session d'actualité sur Radio Kapi. Au sommaire, les évêques catholiques de la province ecclésiastique de Bukavu dénoncent l'aggravation de la crise suivie des déplacements massifs de la population au Nord Kivu. Ils l'ont fait savoir à l'ouverture de l'Assemblée épiscopale des évêques catholiques de la province ecclésiastique de Bukavu, hier lundi à Butembo, dans le Nord Kivu. Dans la province du Tanganyika, des maisons inondées se vident de leurs habitants et certaines écoles ne fonctionnent pas. C'est à cause des cas d'inondations signalés dans plusieurs quartiers de la cité de Kabalo depuis plus de deux semaines, indiquent nos sources. À l'occasion de la célébration dimanche dernier de la Journée mondiale de la santé, Abraham Zogu, responsable de l'Observatoire de maladies infectieuses et médecine préventive, décrit l'accès difficile des déplacés aux soins de santé autour de Goma. Abraham Zogu est notre invité dans ce journal. Bonjour. Les évêques catholiques de la province ecclésiastique de Bukavu qui regroupent les diocèses de Goma, Butembo, Beni, Kasongo, Bukavu, Uvira et Kindu dénoncent la souffrance de la population du Nord Kivu, aggravée par la présence de la rébellion du M23 dans plusieurs agglomérations. Ville de Goma encerclée, déplacement massif des populations, quand est-ce que cette guerre va prendre fin, se demandent-ils. Ils interpellent les gouvernements et les Congolais dans leur ensemble à prendre ces conflits au sérieux. Appel lancé en marge de l'Assemblée épiscopale qui s'est ouvert hier à Butembo. Suivez.
L'archevêque métropolitain de Bukavu a dénoncé l'aggravation de la crise avec les déplacements massifs de la population au Nord Kivu. Monseigneur François-Xavier Maroy plaide pour la défense de la patrie.
La crise s'est aggravée parce que maintenant, vous savez que Goma est encerclé par les méchants. Les gens sont en déplacement massif. Tout ça cause des gens qui ne veulent pas comprendre la parole de Dieu et s'engager à la vie. Mais nous allons demander, pas seulement à Dieu de nous aider, mais à chaque homme de faire son travail pour le bien de l'autre. Nous avons non seulement la foi à défendre, mais aussi la patrie à défendre parce que c'est chez nous.
Pour sa part, Monseigneur Willy Ngumbi, évêque du diocèse de Goma, a reproché au gouvernement de ne pas prendre au sérieux la guerre du M23.
Actuellement, nous avons l'impression de ne pas savoir qui nous protège au fond et surtout savoir quand est-ce que cette guerre finira. Cette guerre a commencé à Bunagana, mais chaque fois, la rébellion du M23 a pris des autres localités et aujourd'hui, elle est à la porte de la ville de Goma. Quand est-ce que cela va s'arrêter? On n'a pas l'impression que notre gouvernement prend les choses au moins très au sérieux.
Notez que l'Assemblée ecclésiastique va durer une semaine. Béni, Martial Papi Moukeba, Radio Okapi.
Pendant ces temps, sur les terrains, des affrontements, les attaques aux mortiers de la part de rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise se multiplient dans la zone de Sake et ses environs. C'est ce qu'affirment plusieurs sources locales. La semaine dernière, ces bombardements ont fait au moins 4 morts, dont 3 soldats tanzaniens de la force de la SADC déployés à Mubambiro. Une cérémonie de dernier hommage à ces militaires a été organisée hier lundi au quartier général de cette force à Goma. Bernardin Nyangi.
Si un calme relatif s'observe ce mardi autour de Sake, c'est le jeudi 4 avril que 3 soldats tanzaniens de la SAMIRDC ont été tués et 3 autres blessés par des bombes larguées entre 8h et 11h locales par les rebelles du M23 sur leur base de Mubambiro près de Sake. Ces bombardements ont également causé la mort d'une fillette et blessé au moins 4 autres civils dans un petit marché spontané situé à côté de cette base. Dans son communiqué officiel d'hier lundi, la SADC a annoncé la mort de ces 3 soldats tanzaniens tués par les impacts des bombes, ainsi que la mort d'un autre soldat d'origine sud-africaine survenu à la suite d'un souci de santé sans d'autres précisions et dont la cérémonie d'hommage a été organisée à Goma ce même jour. Cependant, ce communiqué n'accusait pas directement les rebelles du M23 d'être à l'origine de cet incident. La SADC parlait seulement d'un obus de mortier ennemi à proximité du camp où se trouvaient les soldats tués. Après d'autres bombardements similaires, toute la matinée de la journée de samedi, nos sources déplorent la perte de contrôle par l'armée congolaise et ses alliés d'une grande partie nord de la cité de Sake, ce qui pour ses sources pourrait avantager les rebelles. Goma, Bernard Dengangi, Radio Kapi.
En Ituri, cependant, de nombreux ménages des personnes déplacées quittent depuis une semaine les différents sites de Bounia et de la périphérie pour occuper plus de 600 nouveaux logements construits par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, HCR. C'est dans le cadre de la réinsertion volontaire et durable de ces personnes déplacées qui ont fui les atrocités des groupes armés depuis environ 7 ans. Selon les humanitaires, ce projet est motivé par la baisse de l'enveloppe pour l'assistance à ces déplacés. Jean-Claude Lokidi a visité quelques familles dans leurs nouveaux abris. Voici son reportage.
Atterre est une entité coutumière située à une dizaine de kilomètres de Bounia. Nous rencontrons Aimée Machozi, mère au foyer, qui vient de passer sa deuxième nuit dans sa maison. Elle raconte le calvaire qu'elle a subi après près de 3 années passées sur le site de Terre avant de rejoindre sa nouvelle habitation où elle vit désormais, dit-elle, avec dignité.
Vivre dans mon ancienne habitation sur le site était pratiquement pénible. L'espace était trop petit et c'était un abri construit à bâche. Il faisait trop froid, il était difficile d'assurer l'éducation des enfants. Actuellement, je suis chez moi et je mets ça à l'aise.
À une centaine de mètres de là, nous retrouvons cette fois Augustin Mahombi, un autre ex-déplacé en provenance de l'ICI en territoire de Djougou, qui a déjà aménagé sa nouvelle habitation en érigeant une douche et une toilette. Il se dit fier de voir désormais ses enfants avoir de l'espace pour leur séjour.
Je suis très heureux aujourd'hui. Les enfants ont passé nuit dans leur chambre et moi dans la mienne. Et j'ai la foi qu'un jour, je pourrais même me procurer un lopin de terre pour faire des champs.
Ce projet est financé par le ACER en collaboration avec d'autres agences de l'ONU, dont le PNUD, le PAM et la FAO. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Kapi.
Je l'ai annoncé dans les titres, en province du Tanganyika, des cas d'inondation sont signalés dans plusieurs quartiers de la cité des Kabalo. Des sources indiquent que depuis plus de 2 semaines, des maisons inondées se vident de leurs habitants et certaines écoles ne fonctionnent pas. Cette situation provoque les déplacements des populations. On écoute un habitant du quartier Lukundula à Kabalo qui lance un SOS aux autorités dans cet extrait choisi par Paulin Munanga.
Nous sommes inondés depuis plus de 2 semaines maintenant, parce que en plus des eaux qui sont en train de venir vers nous, les eaux du fleuve Congo, il y a aussi les eaux de la pluie. Et la population habitant du côté Flambeau, du côté du fleuve, tout le monde a migré vers Congo, mais aussi vers... donc c'est-à-dire les quartiers qui ne sont pas inondés, c'est là que la population se retrouve. Mais il y a beaucoup de gens, donc il y a beaucoup d'enfants qui sont dehors. Il y a même des écoles qui sont inondées, il y a des écoles qui ne fonctionnent pas. Et beaucoup d'autres maisons vraiment sont en train de tomber parce que les matériaux de construction qu'ils ont utilisés, il y a d'autres maisons qui sont en train de tomber avec les eaux des pluies et les eaux du fleuve. Je souhaiterais que les autorités qui se trouvent à Kalemi, voire même dans notre territoire, de voir l'état dans lequel les gens sont en train de passer et voir comment ils peuvent nous venir en aide.
D'autres dégâts des pluies diluviennes de ces derniers temps sont la menace également de suspendre la circulation entre Kinshasa et la région du Grand Kasaï en passant par les Kwango et les Kwilu via Kikwit. La route nationale numéro 1 qui relie ces provinces est menacée des coupures tout près du village Makiala, non loin du pont Konzi situé à 35 km de la ville de Kenge, chef-lieu de cette province. C'est suite à une tête d'érosion provoquée par ces pluies. Le vice-président du cadre des concertation provinciale de la société civile du Kwango qui alerte demande à l'office des routes de tout faire pour éviter les pires. Symphorien Kwengo le dit au micro de Irène Mbomaluzolo.
La route nationale numéro 1 est menacée d'être coupée par une tête d'érosion qui se trouve sur la montée juste après le pont Konzi avant d'arriver au village Makiala. Cette érosion a déjà endommagé la partie droite de la chaussée. Pour passer à cet endroit, les véhicules qui montent ou descendent utilisent l'aile gauche. Il suffit d'une seule pluie pour que la partie qui résiste encore soit coupée. Si la route est coupée à cet endroit, le trafic routier sera interrompu et une partie de la province du Kwango, les provinces du Kwilu, Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental, les Haut-Katanga et les autres provinces seront isolées de la ville-province de Kinshasa. Sur le plan économique, les conséquences seront incalculables. Nous demandons ainsi au directeur provincial de l'office de route du Kwango d'agir en toute urgence afin de limiter les dégâts.
À Kinshasa, entre-temps, après les pluies qui se sont succédées depuis le week-end, l'heure est au bilan dans plusieurs quartiers victimes d'inondations, également aux grands travaux de récupération des sécupés lettres et des nettoyages dans plusieurs ménages. Les nuits qui viennent dépasser n'ont pas été de tout repos pour les Kinois habitant ces coins. Babel Mpongo et Greta Lulendo nous en font le point.
C'est notamment le cas au quartier Ndano, dans la commune de Limité, également dans beaucoup d'autres quartiers, voisins des rivières et autres canalisations bouchées de Ngaliema, Ngiringiri, Bumbu et Kalamu notamment. Ndano l'a dit qu'il est isolé de la rivière Ndjilia cédée hier. L'inondation était telle que le quartier s'est vidé de ses habitants. Plusieurs ont négocié moyen en paiement pour passer la nuit dans des salles de fête situées plus haut. Ceux qui ne pouvaient pas ont dormi à la Belle Étoile. Ce mardi, l'eau toujours présente a baissé un tout petit peu, ce qui permet à certains ménages de commencer à évacuer l'eau de leur maison pour ensuite s'attaquer à la boue. Les dégâts matériels sont énormes et cette eau sale pourrait engendrer des maladies, nous disent les habitants. Ils plaident pour la construction d'une nouvelle digue répondant aux normes par des experts du domaine. L'eau est toujours aussi présente à Ngiringiri vers Khartoum. Dans plusieurs parcelles inondées, des pierres et des planches permettent au moins aux habitants de sortir pour vaquer à leurs occupations. Un peu partout sur les sites inondés, on se bat pour reprendre le cours de la vie en priant que le ciel soit un peu clément côté pluie, mais que le soleil brille davantage pour tout sécher.
Les mêmes pluies qui se sont abattues sur la ville de Kinshasa n'ont pas épargné la route Mokali et certaines maisons dans la commune de Kimbanseke, où des dégâts matériels sont aussi enregistrés. Les quartiers Kakoudi à Pascal se trouvent enclavés. Les populations de ces coins vivent dans l'eau et plus rien ne marche dans cette partie de la ville. Les points sur cette situation avec Jeff Ngoy.
La route Mokali qui donne accès dans ce quartier Kakoudji est envahie par la boue. Des flaques d'eau qui ne tarissent point et des bouteilles plastiques qui ont quitté la petite rivière au fond de la chaussée. En plein désarroi, ce magistrat qui habite ici nous livre son témoignage.
Nous avons des problèmes avec le manque de caniveau. Quand il pleut, il y a des inondations. Parce que comme il y a un petit ruisseau sous forme de caniveau, mais ce ruisseau-là est bloqué quelque part. L'eau, maintenant, quand elle a rempli les caniveaux, l'eau est entrée dans des parcelles de gens sur plusieurs avenues. Et ces gens-là sont dans l'eau. Et c'est ce qui s'est passé. Les routes, on ne sait même pas par où passer.
Certaines maisons sont construites sous la voie publique et à côté on trouve des troncs d'arbres et des pneus. Où sont passées les autorités publiques, s'interroge cet habitant.
Les responsables de la territoriale, elles restent dans leur bureau. Ils ne font même pas des inspections, ils ne passent même pas, ils ne voient rien. Il y a plein de trous. Les gens ont mis des pneus sur la route, des troncs d'arbres pour préserver leurs parcelles. Ainsi, les véhicules ont même difficile à passer.
Ce tableau sombre après les pluies est presque pareil un peu partout dans la commune de Kimbanseke.
Autre nouvelle, 60 enfants orphelins sauvés de justesse de l'incendie de leur domicile par deux voisins. Cela s'est passé vers 2h du matin ce mardi dans la commune d'Engaba à Kinshasa. L'orphelinat Lisanga Clisto, situé sur l'avenue, n'existe plus que des noms. Tous les bâtiments sont partis en fumée en commençant par la chambre de la promotrice. Nourriture, mobilier et autres vêtements, le feu n'a rien épargné. Les bourgmestres de la commune d'Engaba lancent un SOS aux gens de bonne volonté de voler au secours cours de cet orphelinat. Aimé Lolinga est joint au téléphone par Alphan Poissa.
Des provisions, le dortoir des garçons, tout est parti. Donc, des archives, il n'y a plus rien. Je viens de passer la journée là-bas. Il manque de tout. Mais quand je dis de tout, ça veut dire qu'il n'y a rien à manger, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vêtements. Les enfants, elle-même la promotrice, n'a que les vêtements qu'ils avaient pour dormir. Les enfants, grâce à Dieu, il n'y a pas eu de blessés. Les voisins sont intervenus pour sauver les enfants. Donc, sur ce plan-là, en tout cas, les enfants sont en bon état. Choqués, mais sans blessures, ni brûlures, ni rien. En tout cas, je lance un SOS, sauver cette orphelinat. Cette dame n'a pas d'aide de l'État. Elle a à peu près 60 enfants. Le plus jeune a une semaine et le plus vieux a à peu près 20 ans. C'est vraiment un orphelinat qui vit par les dons, par les aides des gens comme vous et moi, qui de temps en temps donnent un petit quelque chose pour sauver. Les enfants vont dormir à la Belle Étoile. Il n'y a plus de matelas, plus rien. Même les uniformes, les cahiers, tout est parti en fumée.
Les marchandises des nombreux commerçants traînent à Kitenge dans les territoires des Kabongo, province du Olomami. Il s'agit notamment de l'huile des palmes, du maïs, graines et des autres produits agricoles. Ces commerçants demandent à la SNCC de tout faire pour acheminer leurs marchandises qui, du reste, sont déjà placées dans les wagons à leur destination respective. Ils redoutent aussi que certaines ne s'égâtent, ce qui mettra en mal leurs économies. On écoute l'un d'eux au micro de Jean Gandou.
Nous, c'est les commerçants et les clients de la SNCC dans le territoire de Kabongo, précisément à Kitengegar. Nous avons de sérieux problèmes. Depuis qu'on avait chargé nos marchandises dans des wagons de la SNCC au niveau de Kitenge, depuis 11e mois jusqu'alors, nos marchandises sont abandonnées. On a tout fait pour que nos marchandises soient acheminées au niveau de Kolwezi. Sans succès. Alors, nous sommes venus ici pleurer auprès des autorités si on peut nous aider d'acheminer les marchandises au niveau de Kolwezi. Nous avons des enfants à supporter à l'école. Nous sommes dans des maisons d'autrui que nous sommes censés payer chaque fin du mois. Alors, les marchandises sont abandonnées et sont en train de pourrir dans des wagons de la SNCC. Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter ça? La SNCC peut nous aider d'acheminer nos marchandises à Kolwezi.
Le directeur d'exploitation de la SNCC qui reconnaît ces faits indique que c'est vers la fin de cette semaine que ces wagons de marchandises seront tractés. Marc Manyanga invite donc ses commerçants à prendre leur mal en patience.
Actualité internationale.
Au Gabon, les 676 participants au dialogue national inclusif sont entrés hier lundi 8 avril dans le vif du sujet. Après un démarrage poussif pour des raisons logistiques, les travaux en commission ont véritablement commencé. Chaque commission et sous-commission a commencé à éplucher les dossiers pour faire les diagnostics des problèmes par secteur et proposer des solutions pérennes pour les Gabons de l'après-transition.
L'invité.
Notre invité est le docteur Abraham Zogou, responsable de l'Observatoire des maladies infectieuses et médecine préventive au Nord Kivu. Sa structure plaide en faveur de l'amélioration de l'accès des déplacés aux soins de santé. Un appel formulé en l'occasion de la célébration dimanche dernier de la Journée mondiale de la santé. Quel est l'état des lieux de la situation des déplacés autour de Goma sur les plans des soins de santé? Réponse dans cet entretien que le docteur Abraham Zogou a accordé à Bernardin Nyangi.
Monsieur, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Hier, le 7, c'était la journée dédiée à la santé. Est-ce que vous avez un message particulier par rapport à ça?
La journée mondiale de la santé, c'est une journée qui se célèbre le 7 avril de chaque année. Cette année a eu pour thème notre santé, nos priorités. Mais ici, au niveau provincial, nous avons essayé un peu d'adapter avec la situation actuelle. Donc, nous avons eu comme thème investir dans la santé en faveur des déplacés. C'est parce qu'elles sont parmi les personnes qui ont vraiment besoin des soins et dont leur santé n'est pas beaucoup plus prise en compte. Ce sont les déplacés qui n'ont pas de bonnes toilettes, ce sont les déplacés qui ne prennent pas de l'eau potable. Si récemment, il y a une femme qui a perdu la vie dans les camps de déplacés tout en donnant la vie, tout ça sont des indicateurs qui montrent qu'ils n'ont pas accès à des soins adéquats. Voilà pourquoi nous avons essayé un peu de célébrer sous ce thème et aussi appeler les organisations et les instances habilitées à pouvoir y mettre la main le plus tôt possible pour préserver leur santé parce que c'est de leur droit.
Il y a quand même les humanitaires qui font de leur mieux pour apporter une assistance aux limites de leurs moyens. Vous pensez qu'il y a vraiment un gap à couvrir?
Effectivement, il y a des gaps à couvrir parce qu'avec l'arrivée massive des déplacés internes, les organisations humanitaires ne peuvent pas couvrir tous les camps qui sont déjà ici chez nous à Goma. Et certains ménages peuvent échapper aux organisations internationales. Voilà pourquoi nous profitons de ce moment d'appeler le gouvernement à pouvoir mettre des moyens pour sauver la vie des personnes déplacées qui n'ont pas accès aux soins de santé de qualité et adéquate.
Oui, il y a beaucoup de camps autour de la ville de Goma. Dans l'axe Nyiragongo, parlant de l'axe Kanyaruchinya, il y a aussi Rusayo, il y a Mugunga, il y a Lac Vert, ou jusqu'en Zulu en fait. Quels sont les axes qui, selon vous, méritent un regard beaucoup plus particulier, surtout en ce moment?
En ce moment, tous les axes méritent des regards particuliers. parce que beaucoup de ménages actuellement n'ont pas accès aux services de santé de qualité. Ça veut dire que beaucoup ne sont pas pris en charge d'une manière sanitairement équitable, parce que même jusqu'à présent, certains cas reçoivent des nourritures et d'autres cas ne reçoivent pas de nourriture. Il y a certains cas dont les déplacés ont accès aux soins de santé, tandis que dans d'autres cas, non. Et c'est par exemple le déplacé du camp de Kanyaruchinya, qui sont pris en charge des fois par certaines organisations comme Save the Children et MSF, qui financent des structures dans la zone de santé de Karisimbi, comme au centre de santé Majengo, communément appelé Kimuti. Ils viennent là et ils ont des soins adéquats. Là, il s'agit des pathologies qui sont primaires, mais quand il s'agit des problèmes graves, comme par exemple une femme déplacée, le médecin écrit comme diagnostic, il faut qu'il passe à la radio par exemple, ou soit qu'il puisse faire une échographie. Est-ce que cette structure en possède réellement? Non, il faut que la patiente puisse être acheminée à El Africa. C'est pour cela que nous félicitons ces qui mettent la main sur la pâte pour pouvoir faire que les réfugiés, les déplacés puissent avoir accès aussi à des soins adéquats, comme à l'hôpital CBK Befe Standosho. Les déplacés sont pris en charge et aussi avec des pathologies graves. Là, ça ne suffit pas. Il y a toujours des gaps et il faut beaucoup encore plus faire mieux.
On parle de la santé, ça englobe en fait de tout. Les soins de santé primaire, mais aussi l'accès à l'eau potable, la salubrité, l'hygiène. Est-ce que vous pensez que c'est tout ça qui devrait être couvert?
Effectivement, c'est tout ça qui devrait être couvert. Même l'abri aussi des déplacés fait partie aussi de leur santé. Il faut que les déplacés puissent avoir aussi des abris qui correspondent aux situations actuelles. Quand il pleut, il y a toujours de l'eau qui entre dans la tente. Est-ce que, si là-bas il y a des nouveaux-nés, il y aura toujours des dégâts sanitaires. Voilà pourquoi tout doit être pris en compte et nous profitons à cette journée mondiale de la santé pour rappeler aux partenaires du pays, les gouvernements, à pouvoir augmenter le moyen, à pouvoir enregistrer les ménages qui en ont besoin dans les camps des déplacés, pour limiter les dégâts liés aux maladies et aux enjeux climatiques aussi.
Docteur Abraham Zogou, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Et c'est par ici que j'ai clos cette session d'actualité sur Radio Kapi, supervisée et coordonnée par Pelekipe Lamondo et Élisée Chikota Chivueta. Jean-Noël Mokondo, la mise en onde à la présentation, Patience Ngalou Lambombo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix.